Vous êtes bien sur Radio France Internationale, il est 23h30 à Paris et Kinshasa, 22h30 en temps universel.
Zéphirin Quadio.
Bonsoir à toutes et à tous. L'actualité africaine en 10 minutes et on commence par le nouvel appel de l'Angola à un cessez-le-feu dans l'est de la République démocratique du Congo. La présidence angolaise demande une trêve à partir de ce dimanche pour instaurer, nous dit-on, un climat propice aux négociations entre le gouvernement congolais et l'AFC M23, négociations prévues mardi prochain. Nous reviendrons également sur l'annonce de l'arrêt de la fuite de gaz au large du Sénégal et de la Mauritanie. Annonce faite jeudi par l'opérateur britannique BP. L'association des pêcheurs artisanaux de Saint-Louis appelle l'État sénégalais à vérifier que la fuite est bien colmatée. Et puis l'épilogue d'une saga qui a dégradé les relations entre les Comores et Madagascar. Les 28 lingots d'or saisis en décembre 2021 à l'aéroport de Moroni ont finalement été rendus aux autorités malgaches. Résultat de plus de 3 ans de procédure. À 3 jours des discussions directes entre le gouvernement congolais et l'AFC M23 sous la médiation angolaise, Luanda lance un nouvel appel au cessez-le-feu dans l'est de la République démocratique du Congo. La présidence angolaise demande donc une trêve à partir de ce dimanche 16 mars, minuit, une trêve destinée à instaurer un climat propice aux négociations. Rappelons que les précédentes tentatives ont échoué. Le dernier cessez-le-feu, censé entrer en vigueur le 4 août dernier, n'avait pas été respecté malgré un accord signé entre la RDC et le Rwanda sous l'égide de l'Angola. Aujourd'hui encore, la confiance entre les parties reste fragile. Explication, Patient Ligodi.
Une source diplomatique de la sous-région explique que les autorités angolaises tiennent à obtenir ce cessez-le-feu avant même l'ouverture des discussions. Selon elles, l'arrêt de combat est indispensable pour instaurer un climat propice aux négociations et aborder les véritables enjeux. Mais sur le terrain, la méfiance reste palpable. L'AFC M23 a su respecter une trêve depuis mars 2024. Un de ses dirigeants affirme que le mouvement ne riposte qu'en cas d'attaque de l'armée congolaise, ce que démentent les autorités. À Kinshasa, le gouvernement adopte aussi une posture prudente. Une source gouvernementale rappelle que les autorités congolaises respectent leurs engagements, mais doivent protéger les populations en cas d'attaque. L'incertitude porte aussi sur la composition des délégations attendues mardi à Luanda. L'AFC M23 affirme que son équipe est prête à faire le déplacement, mais attend une notification officielle de la médiation angolaise assortie de garanties sécuritaires. La participation des Corneille Nanga et Bertrand Bissimwa, respectivement coordonnateur et coordonnateur adjoint du mouvement, reste aussi incertaine. L'AFC M23 conditionne leur présence aux assurances sécuritaires qui leur seront fournies. Côté gouvernement, la participation d'une délégation officielle est confirmée, mais sa composition n'a pas encore été dévoilé.
Patient Ligodi, le gouvernement éthiopien suit attentivement la situation au Tigré. Déclaration du chef de la diplomatie éthiopienne alors que les tensions de ces derniers jours entre 2 factions du parti au pouvoir menacent d'engendrer une nouvelle guerre. Pour rappel, entre novembre 2020 et novembre 2022, le Tigré a été le théâtre d'un des conflits les plus violents des dernières décennies. Une guerre qui a coûté la vie à au moins 600 000 personnes selon l'Union africaine. La junte militaire du Burkina Faso réfute ce samedi tout massacre de civils par l'armée dans l'ouest du pays en début de semaine. Réaction des autorités après la publication de vidéos d'exactions qui ont suscité l'indignation. Human Rights Watch appelle la junte à enquêter de manière impartiale et à poursuivre de manière appropriée tous les responsables de ces crimes graves. L'organisation a dénombré 58 corps dans les vidéos, mais estime que le bilan pourrait être plus lourd.
Dakar, 92 FM.
Et retour sur l'annonce de l'arrêt de la fuite de gaz au large du Sénégal et de la Mauritanie, annonce faite jeudi par l'opérateur britannique BP. Cette fuite découverte il y a 3 semaines sur l'un des 4 puits du site offshore de Grand Tortue à Mehim avait suscité l'inquiétude et l'indignation de l'ONG de protection de l'environnement Greenpeace. L'association des pêcheurs artisanaux de Saint-Louis, ville côtière du nord du Sénégal, proche du site gazier, s'était elle aussi inquiétée. Aujourd'hui, elle appelle l'État à vérifier que la fuite est bien colmaté. Mamadou Sarr est le président de la commission environnement et protection des ressources de l'association des pêcheurs artisanaux de Saint-Louis.
Nous, en tant que pêcheurs, pour ce qui est maintenant de la véracité des faits, on contrôle ce qui doit se faire et ce contrôle-là, nous le laissons aux autorités, à l'État du Sénégal, au ministère de l'Environnement qui doit faire ce travail de contrôle pour rassurer les Sénégalais, pour rassurer les pêcheurs. Effectivement, donc l'incident a été réparé.
C'est-à-dire que vous êtes toujours inquiet?
Oui, on est toujours inquiet. Parce que vous savez, l'activité d'exploitation de gaz, c'est quelque chose qui est nouveau chez nous. Donc, s'il y a des fuites de gaz, mais naturellement, en tant que pêcheur, on se doit d'être inquiet parce que la mer, nous, on n'a que ça. Nous appelons l'État à être vigilant, à être ferme sur le suivi, à obliger ces opérateurs pour que ces opérateurs respectent les lois. Parce qu'il y a un code de l'environnement qui est là. On ne peut pas donner une licence à des opérateurs et leur donner un blanc-seing pour qu'ils puissent polluer, faire ce qu'ils veulent, ou on ne l'acceptera pas.
Au propos recueilli par les Elisa Vesterhoff et puis dans un communiqué, l'opérateur britannique affirme que des tests supplémentaires, une surveillance et des inspections visuelles se poursuivront pendant un certain temps afin de garantir qu'aucune autre fuite ne se produise. Elle assure aussi que l'impact environnemental de la fuite est actuellement évalué comme négligeable. C'est la fin d'une saga qui a dégradé les relations entre les Comores et Madagascar. La saisie en décembre 2021 de 28 lingots d'or à l'aéroport de Moroni. Les lingots réclamés par Madagascar ont finalement été rendus, épilogue d'un feuilleton qui aura duré plus de 3 ans. Le récit de Nicolas Feldman.
Décembre 2021, sur le tarmac de l'aéroport de Moroni, 3 hommes sont interpellés dans leur bagage. Les gendarmes comoriens découvrent 28 lingots d'or, 49 kilos de métal précieux pour une valeur de 2,5 millions de dollars. La saisie, un record pour les Comores, met à jour l'existence d'un vaste trafic. D'après les enquêteurs, les lingots partaient de Madagascar à bord de bateaux de pêche cachés dans des glacières avant de transiter en avion privé à l'étranger. Les deux ressortissants malgaches sont rapidement extradés vers la grande île. Mais les lingots, eux, restent dans les coffres de la Banque centrale comorienne. De quoi échauder Tananarive, qui va jusqu'à suspendre ses liaisons aériennes et maritimes avec son voisin. Si des raisons sanitaires sont invoquées, certains y voient un moyen de pression pour récupérer les précieux lingots. C'est chose faite. Depuis vendredi, l'or a enfin pu être rapatrié à Madagascar. Les deux gouvernements évoquent dans un communiqué un accord mutuel qui témoigne de leur bonne relation de voisinage. D'après la Gazette des Comores, Tananarive aurait tout de même dû payer une taxe pour marchandises non déclarées, 62 millions de francs comoriens, soit plus de 130 000 dollars.
Nicolas Feldman, en Namibie, un texte criminalisant la promotion ou la propagation du mariage homosexuel, rejeté par le chef de l'État. La proposition de loi adoptée à la majorité simple dans les deux chambres en octobre 2023 prévoyait une amende d'environ 5 000 euros et, à défaut de paiement, une peine allant jusqu'à 6 ans de prison pour toute personne prétendant célébrer un mariage entre personnes de même sexe ou en faisant la promotion ou la propagation. Fin de citation. Le bilan du cyclone Jude, qui a frappé lundi le Mozambique avec des rafales à plus de 195 km/h, s'est alourdi. Ce samedi, l'Institut mozambicain de gestion des risques et désastres parle de 16 morts. Les autorités ont également recensé 2 disparus et près de 60 blessés. Elles font aussi état de plus de 300 000 personnes affectées et près de 33 000 habitations détruites. Il va bien incarner pour 4 années supplémentaires l'Olympisme en Afrique. Sans surprise, Mustapha Beraf, 71 ans, a été réélu samedi chez lui à Alger, à la tête de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique. Un troisième mandat marqué par plusieurs temps forts, à commencer par les JO de la jeunesse de Dakar l'an prochain et les Jeux africains en Égypte en 2027. RFI à Alger, Sofiane Anani.
Seul candidat à sa propre succession, Mustapha Beraf a été plébiscité par les représentants des 54 pays membres de l'instance sportive continentale. Cette assemblée marque une étape cruciale dans la vie de cette organisation et doit définir la stratégie de son action pour le mandat 2025-2029, affirme Mustapha Beraf.
Cette assemblée marque une étape cruciale dans la vie de notre organisation. Nous avons aujourd'hui la responsabilité de choisir les dirigeants qui guideront la CNOA pour les 4 prochaines années.
D'ajouter que l'engagement repose sur 4 piliers essentiels pour faire du sport un véritable levier de développement pour le continent africain.
Consolider et moderniser notre institution en renforçant la gouvernance et en optimisant notre efficacité. Accompagner et valoriser nos athlètes en leur offrant les meilleures conditions de préparation et de performance. Faire du sport un véritable levier de développement en favorisant son rôle social, économique, éducatif sur notre continent.
Enfin, dans une déclaration adressée aux membres de la CNOA, Mustapha Beraf a insisté sur l'importance cruciale de l'unité et la stabilité au sein de l'organisation, tout en veillant à respecter les lois des États africains, ainsi les principes du Comité international olympique. Sofiane Anani, Alger, RFI.
Mustapha Beraf, également membre du CIO, va maintenant se rendre en Grèce pour participer à l'élection du nouveau président de l'institution. Ce sera jeudi prochain. Il est 23h40 à Paris.